Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Perte de conscience, de motricité, de sensibilité, le coma constitue une urgence vitale qui nécessite des soins lourds, souvent prodigués en service de réanimation pour tenter d'en traiter la cause et à la fois d'assurer le maintien des fonctions vitales. L'état comateux peut être d'intensité variée et provoqué par de multiples causes. Absorption de substances, choc, infection, hémorragie, anomalie sanguine, avec ou sans lésion cérébrale. En cas de coma dit artificiel, la perte de vigilance est provoquée par sédation pour faciliter des soins complexes. Compte tenu des inégalités en matière d'accès aux soins, la prise en charge des patients plongés dans le coma est aujourd'hui réservée aux structures et systèmes de santé les plus performants, les mieux pourvus en services de réanimation, capables d'assurer simultanément perfusion, ventilation, monitoring, comme des soins corporels indispensables. Des services de réanimation, chacun le garde en mémoire, intensément sollicités, mobilisés en France pendant l'épidémie de Covid du printemps et à nouveau en situation de tension au moment où de nombreux indicateurs vont dans le sens d'une deuxième vague épidémique de forte intensité. Le coma, qu'est-ce qui peut le provoquer? En quoi consiste sa prise en charge? Que ressent le patient? Quel impact pour l'entourage? Pour en parler avec nous, docteur Martin Dresse, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes médecin réanimateur au sein du service de pneumologie, médecine intensive, réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne Florent Guichard, masseur kinésithérapeute, toujours au sein de ce service de l'hôpital de la Pitié. Service qui vous avait accueilli, Mathis Sarrazin, bonjour.
Bonjour.
Puisque vous avez personnellement passé plusieurs semaines dans le coma pour prendre en charge les complications du Covid-19. Expérience dans un tout autre contexte sanitaire, celui du Bénin. Nous donnerons tout à l'heure la parole au professeur Martin Chobly, ancien médecin, chef de service des urgences du CHU de Cotonou, ex-directeur du SAMU béninois, aujourd'hui président de la Commission technique nationale chargée des réformes de la santé.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Martin Dresse, alors le coma, état altéré de conscience, tout de suite, on a des images en tête, un espace hyper médicalisé, des machines, les sons électroniques, c'est bip bip, un patient relié à des tubes dans un service de réanimation. Mais en fait, l'état de coma, on ne sait pas vraiment ce que c'est quand on n'a pas été confronté soi-même ou dans sa famille. Cet entre-deux, lorsque l'on est plongé dans le coma, comment expliquer pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu ou qui n'a jamais traité ce type de patient, en quoi ça consiste exactement?
La première chose qu'on peut dire déjà, c'est que c'est très déstabilisant, justement, pour les personnes qui n'ont jamais vu ou assisté au coma, à part à la télévision ou au cinéma. Et ça, c'est vrai que c'est souvent des images qui sont très inexactes, en réalité, par rapport à ce qui se passe. Alors, en fait, le coma, il y a beaucoup de comas, puisqu'il y a beaucoup de causes de coma. Vous l'avez très bien dit, il y a les comas d'origine peut-être traumatique, les premiers auxquels on peut penser, après un accident de la route, par exemple. Donc, c'est les comas traumatiques. Et puis, il y a les comas non traumatiques qui sont plus la traduction d'une agression, comme une infection, par exemple, la prise de toxiques, coma alcoolique, par exemple, coma médicamenteux, le coma artificiel, ce qui est un coma finalement thérapeutique qu'on utilise pour soigner les gens. Et donc c'est vrai que avant de bien décrire ce que c'est, il faut déjà bien se dire qu'il y a beaucoup de comas différents. Mais l'image peut-être la plus semblable à tous ces comas, c'est quelqu'un qui va avoir l'apparence de dormir et qui ne va pas réagir lorsqu'on va le stimuler, soit verbalement très fortement, soit même de façon douloureuse. Et c'est vrai que lorsque le coma est en fait retrouvé par l'entourage, quand ça arrive à la maison, quelqu'un qui va faire un accident vasculaire cérébral par exemple, c'est souvent extrêmement ça fait très très peur, puisque ça peut donner l'apparence de la mort, par exemple. Et pour nos étudiants, nos externes en médecine, on leur apprend que la première chose à faire devant un coma, c'est de s'assurer que le patient n'est pas en arrêt cardiaque, en fait.
Alors, vous avez décrit différentes causes. Est-ce que, justement, il y a aussi différents degrés de conscience? Et comment est-ce qu'on fait, justement, quand on est médecin? Quels examens sont utilisés pour évaluer l'état de ce patient et le degré de son coma?
En fait, il n'y a pas tellement d'examens à faire pour évaluer la profondeur du coma. C'est l'examen clinique, c'est-à-dire une évaluation neurologique où on va essayer de stimuler le patient, apprécier son degré de réponse. Soit il est complètement aboli, c'est-à-dire que le patient n'aura aucune réponse du tout, ou alors il peut être un peu grognant, ou il peut bouger un petit peu, donc ou avoir quelques réflexes présents. Donc ça peut déjà nous aider à évaluer le coma. Et on va dire que dans les comas les plus graves, eh bien en fait on n'a pas tellement besoin d'examens supplémentaires pour faire le diagnostic. Il faut tout de suite mettre en place un traitement qui est un traitement symptomatique, de façon à ce que le coma ne provoque pas de problèmes supplémentaires. Et ensuite, effectivement, on va essayer de comprendre la cause de ce coma avec des examens plus sophistiqués, scanner, IRM, électroencéphalogramme.
Alors, coma involontaire, on va dire, quand il est consécutif à un choc, à une maladie. Coma artificiel, comment se prend cette décision de plonger quelqu'un dans un état de coma artificiel?
Alors déjà, il faut savoir que le coma, c'est peut-être la première ou la deuxième cause d'admission en réanimation. Alors si c'est pas la cause pour laquelle le patient a été admis en réanimation, on peut être amené à plonger, comme on dit, à faire tomber parfois les patients dans le coma, parce que finalement les soins qu'on doit prodiguer, ou en tout cas la maladie qui induit le transfert du patient en réanimation, provoque des symptômes qui sont trop douloureux ou trop désagréables pour accepter que le patient puisse en souffrir. Et donc, on va préférer l'endormir, puisque quand on l'endort, on peut lui donner des médicaments puissants pour la douleur, ce qui permet que le patient ne souffre pas, en attendant que la cause qu'il a amené en réanimation guérisse, parce qu'on va
mettre en place. Ça veut dire que là, on travaille en binôme avec un anesthésiste, forcément, pour...
Non, pas du tout, puisque la réanimation médicale, elle est réalisée par des médecins réanimateurs, qui ne sont pas des anesthésistes nécessairement, ça peut être le cas.
Et pour la sédation, comment ça se passe, justement, sur le choix des produits, les quantités, l'évaluation? J'imagine qu'on travaille quand même, c'est quand même très très délicat.
Oui, alors le métier de réanimateur, c'est un métier à part entière de nos jours, c'est ce qu'on appelle la filière de médecine intensive réanimation. Donc ce sont des professionnels qui ont eu un parcours de médecin et qui se sont spécialisés dans la réanimation et qui ont donc appris toutes les techniques de la réanimation, notamment celle de l'anesthésie. Alors attention, en réanimation, puisqu'il y a une anesthésie qui est très particulière, qui est très technique, et évidemment un médecin de médecine intensive réanimation ne pourrait pas le faire au bloc opératoire. Mais là, on est sur une anesthésie qui est très différente et qui ne requiert pas les mêmes compétences et les mêmes savoirs qu'un anesthésiste.
Alors, Mathis Sarrazin, justement, ce coma artificiel, c'est ce qui a été décidé pour vous. Vous êtes en ligne. 3 semaines dans le coma, c'est ça la durée que vous avez passée dans cet état entre deux?
Tout à fait.
Est-ce que vous conservez la conscience de votre état juste avant d'être plongé dans le coma? Est-ce que vous en souvenez?
Alors non, moi je m'en souviens pas. Mais en fait, je me souviens pas d'une période un peu plus longue que la période où je suis arrivé à l'hôpital. En fait, j'ai commencé à être malade du Covid autour du 20-25 février. Et j'ai rejoint l'hôpital le 6 mars. Et en fait, toute la semaine qui a précédé le 6 mars, j'ai très peu de souvenirs. Donc je me souviens pas des 5 jours où j'étais chez moi avant d'aller à l'hôpital, et encore moins des 2 jours, des 2 premiers jours à l'hôpital avant qu'on m'endorme.
À cause de l'épuisement associé à la maladie?
J'ai pas d'explication médicale. Je dirais que c'est peut-être parce que j'étais sous-oxygéné lié au Covid, mais en tout cas je me souviens de quasiment rien.
Maintenant, du côté des sensations pendant le coma, est-ce que vous gardez justement des souvenirs de cette période, ou c'est, on va dire, un blackout, un oubli complet?
C'est difficile à dire parce que même au réveil, les souvenirs que j'ai sont très diffus, et c'est difficile d'avoir une notion du temps, par exemple. Mais je pense que j'ai pas de souvenirs et que c'est un vrai blackout sur la période du coma. Je sais qu'on a essayé de me réveiller 2 fois où le réveil a été difficile, et c'est peut-être là où j'ai l'impression d'avoir des souvenirs, ou en tout cas des hallucinations, des espèces de rêves. Et je suppose que c'est durant ces 2 périodes où on a essayé de me réveiller avant de me rendormir. Mais sinon, pour moi, c'est un blackout total pendant les 3 semaines.
Docteur Martin Dress était dans votre service, hein, qui était Mathis Sarrazin. Bien sûr, il y a le secret médical. Mais vous avez le souvenir de cette période de coma?
Bonjour Mathis.
Bonjour.
Oui, je me rappelle très bien de Mathis. C'est un de nos tout premiers patients. Je dois dire que d'ailleurs, au nom de toute l'équipe, on est très heureux de l'entendre aujourd'hui parce que je me rappelle... par où nous sommes passés. Quand je dis nous, c'est que vraiment c'était un partenariat entre lui, bien sûr, sa famille et toute l'équipe. Donc vraiment, on est très heureux de vous entendre, Mathis. Donc c'est vrai que ça a été une période difficile et comme il le dit très bien, il y a eu plusieurs phases de réveil où en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton on ou off, c'est pas un interrupteur et en fait quand on arrête les médicaments qui produisent le coma, pour ces patients qui ont été plongés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, eh bien, c'est un atterrissage qui parfois peut être très, très, très chahuté. Et pour Mathis, comme pour d'autres, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils sont dans une phase un peu semi-onirique, avec des sensations, avec des douleurs, certainement une phase d'incompréhension. Ils ne peuvent pas parler, puisqu'ils ont une sonde dans la trachée qui les connecte à un respirateur pour leur permettre d'avoir des échanges gazeux, de l'oxygénation satisfaisante. Ils ont des tuyaux un peu partout, dans la vessie, dans l'estomac, des perfusions. Donc c'est certainement un moment extrêmement angoissant. Donc nous on le sait, bien sûr, les soignants le savent, mais en tout cas on n'est jamais à la place de ces personnes. Et on avait un autre patient qui est pas Mathis, mais qui nous a même dit qu'il avait cru qu'il était torturé en fait. Hein. Mais vraiment c'était des éléments de langage qui étaient tout à fait cohérents. Et il nous avait très bien décrit ça. Il pensait qu'il avait été capturé, torturé. C'est parfois extrêmement angoissant.
Une dimension de perte de contrôle. Vous restez avec nous, messieurs, un témoignage souvenir post-coma et une lettre, un témoignage, une lettre écrite par un homme qui revient de loin. Il s'agit d'Alexei Navalny, survivant d'une tentative d'empoisonnement, de plusieurs semaines de coma. L'opposant russe, sur les réseaux sociaux, fait le récit de son coma, du retour à la vie et aussi de l'importance de l'être aimé.
Yulia et moi, le 26 août, nous avions un anniversaire, nos 20 ans de mariage. Mais c'est tant mieux si je l'ai raté. Parce que, ça je peux l'écrire aujourd'hui, j'ai appris sur l'amour un petit peu plus que je n'en savais il y a un mois. Vous avez déjà vu ça 100 fois, bien sûr, dans les films, et vous l'avez lu dans les livres. Il y a quelqu'un qui aime et qui est dans le coma, et il y a quelqu'un d'autre qui, par son amour et le souci constant qu'il a de lui, le ramène à la vie. C'est cela, bien sûr, qui nous est arrivé, à nous aussi. Nous avons suivi les canons des classiques du cinéma sur l'amour et le coma. Je dormais, je dormais, je dormais. Yulia arrivait, me parlait, me chantait des chansons, elle mettait de la musique. Je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens de rien. En revanche, je vous raconterai ce dont, moi-même, je me souviens à coup sûr. Plutôt, je doute qu'on puisse appeler ça un souvenir, plutôt un agglomérat des sensations et des émotions les plus primales. Et cet agglomérat, il est si important qu'il s'est imprimé dans ma tête, pour toujours. Je suis couché. On m'a sorti du coma, mais je ne reconnais personne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne parle pas. Et je ne sais pas ce que c'est que parler. Et tout mon temps se passe à attendre le moment où elle viendra, elle. Qui est-elle? Ce n'est pas clair. À quoi elle ressemble? Ça non plus, je ne sais pas. Même si j'arrive à voir quelque chose avec mes yeux qui n'arrive pas à se fixer. Je suis juste incapable de me souvenir de l'image. Mais elle est quelqu'un d'autre. Ça, je le comprends. Et c'est pour ça que je reste tout le temps couché et je l'attends. Elle arrive et dans la chambre, elle devient l'essentiel. Elle m'arrange si bien mon oreiller. Elle me raconte je ne sais pas quoi. Quand elle est près de moi, les hallucinations imbéciles s'éloignent. Je suis très bien avec elle. Ensuite, elle s'en va. Je me sens triste et, de nouveau, je me remets à l'attendre. Je ne doute pas une seule seconde qu'il y ait une explication scientifique à ça. Par exemple, je saisissais le timbre de la voix de ma femme. Le cerveau produisait de la dopamine. Je me sentais mieux. Et l'effet de l'attente augmentait la réponse de la dopamine. Mais quelle que puisse être l'explication scientifique et scolaire, là, maintenant, il y a une chose dont je suis certain pour l'avoir vécu. L'amour guérit et ramène à la vie. Yulia, tu m'as sauvé. Et je veux qu'on ajoute ça dans les manuels de neurobiologie.
Témoignage traduit par André Markovitch, lu par Christophe Paget, Priorité Santé. On vous retrouve en ligne, Mathis Sarrazin. Vous-même, hein, 3 semaines dans le coma suite aux complications du coronavirus. Témoignage, sortie du coma, ressenti, vos propres souvenirs. Est-ce que ça vous pousse à réagir, ce que vous venez d'entendre?
Bah, je suis vraiment en ligne avec ce qui a été dit sur le côté. C'est pas vraiment des souvenirs parce que ça s'est pas passé, mais on a comme quand on se réveille d'un cauchemar le matin dont on se souvient très bien. Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu au réveil, sauf que ces images, elles restent imprimées aujourd'hui. J'ai des souvenirs. Je me rappelle de cauchemars ou d'hallucinations que j'ai eues durant le réveil et peut-être durant le coma, mais où par exemple quand je me suis réveillé, j'avais le sentiment d'être à l'hôpital parce que j'avais vécu un accident de voiture où je me revoyais allongé sur le bitume et à attendre les secours arriver, alors que c'était évidemment jamais arrivé. Mais donc je suis assez en ligne avec la manière dont il a vécu le réveil. Et puis après tout ce qu'il dit sur le fait que sa femme l'a sauvé. C'est vrai que c'est très important et je l'ai souvent entendu de la part des médecins aussi, c'est que la présence de la famille et des gens qui peuvent venir, qui a été compliqué durant la période Covid, mais c'est vraiment un soutien hyper important et qui permet de tenir. Et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la Salpêtrière, mais c'est aussi le soutien des médecins, des infirmières et des aides-soignantes qui a fait au moins la moitié du travail psychologique. C'est des personnes qui sont là et qui vous aident au quotidien et c'est ce qui vous permet de tenir durant les périodes très difficiles de réveil, quoi.
Et justement, ce contexte d'épidémie, malgré tout, les proches qui étaient obligés de rester à la porte, comment vous voyez ça avec le recul? On comprend parce qu'il y a le risque de contagion, mais en même temps, c'est quelque chose de douloureux, on l'entend aussi, pour le patient, pour la famille et peut-être aussi pour l'équipe qui doit être chargée d'endosser un rôle qui n'est pas forcément le sien, docteur Dress. Il a fallu aussi être là plus que des médecins, plus que des infirmières, puisque la famille n'était plus là.
C'est une période vraiment noire pour nous. Et il faut savoir que la présence des familles dans les services de réanimation, c'est quelque chose qui est maintenant présent, en tout cas dans notre service, mais dans la grande majorité des services de réanimation en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que on a compris maintenant, il y a quand même une vingtaine d'années, que le rôle des familles était essentiel. Comme le dit très bien Mathis Sarrazin, ça permet d'ancrer quand même les gens qui se réveillent dans une forme de réalité qui parfois est complètement perdue, et donc retrouver des visages qu'on entend, des visages qu'on voit, des paroles qu'on entend, c'est essentiel. Et c'est vrai que, alors, chez nous, je dois dire, cette période, elle a vraiment pas duré longtemps parce que on a pas supporté, en fait. Donc on a très vite maintenu quand même la possibilité de faire des visites, même si voilà, il y avait des règles qu'on n'avait pas d'habitude, puisqu'encore une fois, chez nous, c'était 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et là, on avait réduit un peu la durée, le nombre de visiteurs. Donc voilà, ça a pas duré longtemps, mais ça a été extrêmement frustrant pour tout le monde. Après, on avait mis en place quelques outils, artifices pour que ça soit pas trop douloureux, notamment avec des tablettes numériques, de façon à ce qu'il y ait quand même un échange.
Et une interaction. Alors, un autre témoignage tout de suite, c'est celui de Barbara Alary Lafont. Il y a 12 ans, son époux Jean-Louis a un accident de scooter, traumatisme crânien, hématome soudural, coma. Barbara Alary Lafont raconte au micro de Raphaël Constant.
Mon mari est resté un bon mois dans le coma, donc coma profond, doublé d'un coma artificiel pour pas qu'il souffre plus et pour stopper les lésions. Donc il a été réanimé. Donc là, c'est le trou noir, parce que d'un choc finalement anodin, on aboutit à une situation terrible. Alors au début, c'est assez impressionnant parce que vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui est décédé. Parce qu'il n'y a rien qui bouge, le corps est totalement immobile, tout est immobile, avec des machines à droite et à gauche. Il est amaigri, et là c'est un vrai cauchemar. Donc déjà, il y a un vrai travail psychologique à faire au niveau de la famille et des proches. C'est-à-dire qu'il faut passer ce cap de la vision terrible de la chambre d'hôpital où tout s'arrête et tout est suspendu. Et ensuite, évidemment, ben on a un vrai travail, nous, la famille et les amis. Et c'est vrai que les amis, mes amis et les amis de mon époux ont été absolument extraordinaires parce qu'ils sont venus en masse dans cette chambre de réanimation, la chambre 7. Ce qui est très important, c'est de solliciter la personne qui est dans l'état comateux. Et la musique, je lui mettais le chocolat noir sous les narines, les carrés de chocolat parce qu'il adore ça. C'était la période de Roland-Garros et mon mari est très bon joueur de tennis. Il allait tout le temps à Roland-Garros avec des clients. Donc je mettais la télé pour qu'il entende le son des balles, les joueurs, l'arbitre. Je le massais. les pieds, les mains, et j'étais très positive dans mon discours. Je lui racontais les journées des enfants qui étaient tout petits, hein, qui avaient donc 2 ans, 7 ans, 10 ans, et jumeaux avaient 13 ans. Donc j'étais positive, c'est-à-dire que j'avais besoin de lâcher après, parce que c'était vraiment très violent, mais dès que j'entrais dans la pièce, j'étais positive, pour que la personne ait envie de revenir avec nous.
Vous dites vous lâchiez après parce que vous aviez peur, c'est le discours des médecins, le diagnostic qui vous faisait peur, ou la situation du coma en tant que telle?
C'est tout qui fait peur, on perd tous ses repères. Moi j'ai une amie qui m'a dit il faut qu'on fasse le deuil de ton mari, mais alors qu'il est vivant aujourd'hui, mais c'est une autre personne. C'est tout qui fait peur, effectivement, parce que le corps médical c'est imposant, vous avez toute une équipe qui s'adresse à vous, qui vous dit que c'est terminé, qu'on va le débrancher. Donc là, c'est comme si c'était le séisme sous vos pieds. Et puis, il faut tenir. Enfin, moi, j'avais les enfants, donc il fallait aussi que je sois forte par rapport aux enfants. Professionnellement, j'ai dû me mettre à l'arrêt. Donc, c'est tout qui s'écroule. Donc, il faut trouver les ressources nécessaires pour aider et tendre la main et stimuler et solliciter l'être cher qui est dans le coma. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des cellules psychologiques quand il y a des drames comme ça qui se produisent. Et ils m'ont dit, effectivement, si vos enfants veulent venir, il faut leur proposer. Et je trouve ça bien, finalement, parce que les enfants, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de voir, parce qu'en fait, ce sont des éponges. Donc, quand je rentrais le soir, même si je gardais mon sourire, c'était très, très, très lourd à porter, et que j'avais mes enfants à m'occuper, ils savaient très bien que j'étais dans une profonde tristesse. Alors là, ça a été un gros travail de préparation, parce que entre l'idée qui se faisait de leur papa et la dernière image de leur papa 3 semaines auparavant, et ce corps totalement inanimé, c'était terrible. C'est une scène qui a été très 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 violente, parce que mon fils aîné est ressorti aussitôt, il a fait une crise d'asthme dans le couloir. Ma fille s'est mise à pleurer non-stop, elle avait 13 ans, et Maxime qui avait 10 ans, il nous a lu des psaumes. Et là, je peux vous dire que mon cœur a failli se décrocher. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, alors est-ce que c'est notre propre interprétation, mais le fait est que mon mari est sorti du coma, hein, contre l'avis de tous les médecins de l'hôpital Beaujon, il a remué. Il a bougé le bras et c'était la première fois qu'il remuait. On s'est précipité pour aller chercher une infirmière, une aide-soignante. Et elle nous a pas cru. Et même, elle nous a dit, bon, c'est des gestes réflexes. Ça, c'est pas un réveil. Mais nous, on était intimement persuadés qu'on avait tellement porté, par tellement d'amour, que pour nous, c'était déjà des premiers signes de réveil. C'était une petite victoire.
Expérience de Barbara Alary Lafont, hein, qui a puisé la trame de son dernier livre, La course de la mouette, porte à l'écran sous le titre Chamboule tout. Mathis Sarrazin en ligne avec nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez d'une expérience comme la vôtre? Vous avez envie de témoigner, de raconter, ou vraiment de passer à autre chose et d'oublier?
Non, moi, ça me dérange pas du tout de raconter. Au contraire, ça me fait, je pense, un peu de bien de pouvoir en parler. Après, la période très difficile du réveil, qui a duré une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'on commence à vraiment enlever tous les tubes qu'on a dans le corps, repouvoir parler, repouvoir marcher. Voilà, ces 15 premiers jours très difficiles. En fait, les souvenirs que j'en garde ne sont plus les souvenirs les plus durs. Donc je m'en rappelle, je l'accepte assez bien, j'arrive à en parler. Et donc pour l'instant, ça va.
Est-ce qu'aujourd'hui, votre état d'esprit, quand vous entendez certains qui doutent encore, qui doutent des moyens de prévention, qui doutent des gestes barrières, tout ça, est-ce que vous avez un message à leur faire passer, ceux qui doutent de la réalité, des risques? Vous avez 28 ans, je ne l'ai pas dit, mais c'est essentiel, hein, tous ceux qui se pensent aussi à l'abri parce qu'ils sont jeunes, des risques liés à la réalité de ce virus, du Covid-19, vous leur dites quoi, vous qui revenez de très loin?
Non, mais j'ai pas envie de me placer en donneur de leçons morales, mais non, c'est vrai que moi, du coup, mon entourage et moi-même, on a été directement touchés, donc c'est plus facile d'être soucieux de ces enjeux-là. Et c'est vrai que c'est des drames qui peuvent toucher tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a peu de cas jeunes à qui ça arrive, mais c'est vrai que c'est un problème de santé publique, donc que chacun fasse attention, pas que pour soi-même ni ses proches, mais pour tout le monde. Donc
En étant raisonnable, en faisant attention tout simplement. On vous remercie beaucoup, Mathis Sarrazin. Merci de ce témoignage, docteur Dress. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après une petite pause en musique dans Priorité Santé, Tingsek, avec World of Its Own Lyrics.
Particular place I found. No stress at all would waste our time. Nobody's letting anybody down. It's a world of its own in here. We get to do what we decide to.
Dans Priorité Santé, on parle aujourd'hui du coma, prise en charge, ressenti, conséquences pour la santé. Toujours en studio avec nous, le docteur Martin Dress, médecin réanimateur au sein du service de pneumologie, médecine intensive, réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a parlé bien sûr du coma, sortir du coma, la prise en charge, on va y revenir plus longuement. Docteur Martin Dress, mais il y a également l'état du corps du patient comateux, justement on dit ce corps dans cet univers ultra médicalisé, il y a les fonctions vitales, il y a des machines qui s'en occupent mais pas seulement, il y a aussi des médicaments. Du côté des soins, les soins prodigués lorsque l'inconscience dure très longtemps, ils consistent en quoi ces soins ?
C'est des soins extrêmement lourds et pour se donner une idée, en fait c'est tout ce qu'on fait naturellement, habituellement, qui ne peut pas être fait par nous-mêmes, c'est-à-dire manger, bouger, respirer, se déplacer, avoir des selles, uriner, tous les besoins primaires, en fait, doivent être assistés, puisque ces patients sont complètement endormis, inconscients, et donc il y a une équipe paramédicale qui associe donc un infirmier ou une infirmière et un AS, qui en fait assiste le patient dans tous les soins. On essaye parfois, et ça a été réalisé à plusieurs reprises, d'associer la famille dans ces soins, puisque c'est des soins qui peuvent être intimes, quand c'est le brossage des dents par exemple, la toilette intime ou les soins des cheveux. Donc on essaye de faire intervenir un peu la famille, ça dépend des situations, mais globalement c'est tous les soins auxquels même on ne pense pas parce qu'ils nous paraissent naturels, mais c'est beaucoup de soins.
C'est une véritable équipe mobilisée. Hein. Pour le détail, AS, c'est aide-soignant, soins, entretien du corps. On vous retrouve, Florent Guichard, bonjour.
Bonjour.
Dans cette équipe, il doit y avoir un masseur kinésithérapeute dans le service de réanimation, vous aussi à la Pitié-Salpêtrière. Vous travaillez aussi bien avec les patients dans le coma qu'avec ceux qui se réveillent après un coma ?
Alors, j'aurais quand même un peu plus tendance à travailler avec ceux qui se réveillent, mais effectivement j'ai eu quand même un gros rôle, surtout quand la période du Covid notamment, il y avait beaucoup de patients dans le coma. J'avais un gros rôle comme l'a dit Martin, de mobilité pour les patients se trouvant ainsi dans le coma, quoi.
Ça veut dire quoi, hein, si on essaie de décrire à celles et ceux qui nous écoutent, on leur fait bouger les jambes, comment on les sollicite quand ils sont comme ça dans un état d'inconscience ?
Moi je vais passer par la chose la plus simple qu'on apprend en kinésithérapie, ça va être de la mobilisation passive, en fait. Effectivement, des bras et des jambes. En tout cas, quand ils sont en période de sédation, c'est comme ça qu'on va faire. De les bouger comme ça pendant un certain temps, ça va éviter l'enraidissement des articulations, puisque des articulations qui vont pas bouger, ça va être des articulations qui vont s'enraidir. Mm-hmm. Comme des muscles qui vont pas être stimulés, les muscles qui vont... En fait, le muscle dans le corps humain, il travaille avec un système agoniste-antagoniste. Et souvent, en fait, il va y avoir un muscle plus fort que l'autre qui va se rétracter, qui aura tendance à se rétracter. Et du coup, ça va créer des mauvaises positions, en fait. Mmh. Donc en fait, moi, je suis là aussi pour étirer les muscles et éviter toute rétraction qui pourrait lors du réveil du patient devenir un peu plus embêtante pour lui. Quoi.
La fréquence de ces séances quand le patient est dans le coma, on va dire, vous passez tous les jours, plusieurs fois par jour, comment ça se passe ?
Alors, bah, ça dépend en fait surtout de la charge de travail qu'on a dans la journée. Mmh. En général, oui, j'essaie de passer une fois par jour, au moins. Quand j'ai le temps, entre 20 minutes, une demi-heure avec chaque patient, à les mobiliser les quatre membres. Et puis comme ça, j'en profite aussi pour regarder un peu leur ventilation et leur manière de respirer.
Le muscle, les articulations, on n'y pense pas toujours, mais c'est très important aussi de garder la peau, on va dire simplement en bon état, qu'il n'y ait pas d'infection. Les escarres, c'est un des grands périls hein, pour toutes les personnes qui sont immobilisées. Est-ce que Florent Guichard, là aussi, c'est votre travail ou ce sont d'autres membres de l'équipe qui est du service de Réa qui vont intervenir sur ce côté dermato, qualité et aussi hygiène de la peau?
Ça, en fait, on travaille surtout en équipe. Moi, j'ai pas vraiment un gros rôle en tant qu'iné sur tout ce qui est dermato directement, on va dire. En fait, moi, j'interviens par mon expertise sur tout ce qui est installation du patient. Quelle installation du patient va minimiser le risque d'escar, mmh. Quelle installation du patient va minimiser le risque de mauvaise position et du coup contraindre. Où est-ce qu'il y a le plus de chances d'avoir des escarres ou des rétractions des muscles. Et en fait, tout ce genre de choses, ça va beaucoup nous ralentir lorsque le patient sera réveillé et qu'on commencera à essayer de faire du sevrage ventilatoire. Donc en fait, c'est la prise en charge de tout ça. Moi, j'interviens, c'est tout en équipe, et moi, j'interviens surtout sur la bonne installation du patient pour...
On va dire pour garder son corps dans le meilleur état possible, pour
Exactement.
Mieux l'aider ensuite. Docteur Martin Dress, prise en charge multidisciplinaire, comment justement ces soignants travaillent-ils ensemble? Comment est-ce qu'on répartit le travail? On répartit le temps d'intervention sur le corps? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu à l'avance ou c'est complètement modulé au jour le jour?
Non, c'est relativement bien codifié. On travaille en équipe. Alors, ça fonctionne avec... D'abord, il y a un binôme aide-soignant, infirmier-infirmière, qui est un binôme, un vrai partenariat, dans la prise en charge des soins intimes, dans les soins du patient. Et puis, tous les jours, voire même deux à trois fois par jour, on fait la visite, ce qu'on appelle la visite, avec l'équipe médicale et l'équipe paramédicale, où on planifie justement ce qu'on va faire dans la journée. Et c'est là où on va justement se rendre compte, comme le disait Florent, que le patient pourrait bénéficier d'une mobilisation passive, d'une mise au fauteuil, par exemple, s'il est en train de se réveiller. Tout ça, effectivement, pour permettre que le séjour en réanimation soit le plus court possible et le moins dramatique possible. C'est vraiment tout l'enjeu. Bien souvent, en réanimation, en fait, on attend que la nature fasse bien les choses d'une certaine façon. Il faut quand même rester très humble dans tout ça, notamment pour le Covid, on ne fait pas grand-chose à part maintenir les gens en vie, attendre que ça se cicatrise un peu tout seul, et le travail de tout le monde, on planifie les choses pour que on agresse le moins possible le corps et que le patient puisse se réveiller le mieux possible et récupérer ses fonctions antérieures.
Alors on est dans l'après déjà, Florent Guichard. Qu'est-ce qui va déterminer justement le premier lever après tant de temps, quand c'est des semaines passées allongées? On imagine que c'est un véritable événement déjà, s'asseoir, c'est un effort énorme pour le patient.
Ah oui, c'est sûr. Déjà, avant de parler premier lever, pour moi, en fait, ce qui est important, c'est le premier bord de lit aussi. Donc, première fois où le patient va s'asseoir après avoir passé plusieurs semaines allongé dans son lit, ou alors même sur le ventre s'il va pas bien. Et donc, c'est la première fois où, justement, là, on va redemander à tout son rachis cervical, thoracique et lombaire de se réveiller, de retravailler comme un rachis sain, en fait, parce qu'il va devoir porter son corps contre toutes les déstabilisations, la gravité, c'en est déjà une grosse. Ensuite, tous les tuyaux qui vont tirer d'un côté et de l'autre, parce qu'il faut penser que quand on fait ça, les patients sont encore très très reliés, soit au scope, soit ils ont encore des cathéters centraux et tout ça.
Donc ça veut dire qu'il y a encore des tubes partout, hein, pour parler trivialement, il y a des tubes partout.
Voilà, il y a des tubes partout, il y a encore peut-être aussi la sonde d'intubation. Donc celle-là, c'est là, il faut quand même bien la surveiller, faut pas qu'elle bouge. Et donc on fait très attention à ça, et là on va faire le premier bord de lit. Donc souvent le patient il va être un petit peu hypotendu, puisque ça fait un mois qu'il est allongé, et tout d'un coup je lui demande de se relever, donc il va souvent avoir la tête qui tourne un peu, donc ça va encore plus le déséquilibrer. Et ensuite, une fois que son équilibre assis est satisfaisant, c'est quelque chose qui revient en général plutôt vite. C'est des mouvements en fait qu'on appelle en kiné fonctionnels. Donc c'est des mouvements qui sont naturels pour l'être humain. Ça, c'est des mouvements qui vont venir plutôt vite comparativement à des mouvements un peu plus spécifiques comme tenir un stylo ou tenir une feuille ou quelque chose comme ça. Donc se tenir assis, ça va revenir très vite, et quand l'équilibre assis est bon et que le patient a suffisamment de tonus dans les jambes, là on peut commencer à penser à se remettre debout. Mais auparavant, on peut déjà passer le patient au fauteuil, comme a dit Martin, grâce à nos machines de lèvres malades, pour en fait améliorer la ventilation pulmonaire du patient, parce que quand il sera dans le fauteuil un peu redressé, il aura une meilleure ventilation de ses poumons.
Et on comprend bien que ce n'est que le premier pas avant une rééducation qui peut être vraiment longue, surtout pour ce type de perte, type de perte musculaire, type de perte aussi respiratoire. Il y a toute la rééducation respiratoire qui est très importante. On vous remercie infiniment, Florent Guichard. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur votre travail, docteur Dress. Cette prise en charge des patients, on l'a bien compris, on a parlé de toutes ces machines. Ça dépend aussi largement de l'accès aux soins. Est-ce qu'on va tout de suite entendre en partant pour le Bénin?
RFI à Cotonou, 90 FM.
On vous retrouve, professeur Martin Chobly, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes ancien médecin-chef de service des urgences au CHU de Cotonou. On va commencer avec les causes. On a dit qu'on parlait des comas, en fait, au pluriel. Les causes, professeur Chobly, dans le service où vous exerciez jusqu'à très récemment, quelles étaient les origines des comas que vous preniez en charge?
Vous savez, le coma, c'est un problème universel, et la médecine est une science. C'est la même chose un peu partout, mais il y a une adaptation au contexte. Et du point de vue des causes de coma, en Afrique, nous avons des comas traumatiques comme en Europe. Parmi les comas non traumatiques, chez nous, ce sont les comas d'origine infectieuse qui sont les plus nombreux. Et notamment le coma par le paludisme grave qui sévit en permanence, surtout quand ça arrive chez des personnes sensibles comme les femmes enceintes ou comme les jeunes enfants, on a des comas qui sont très graves. Nous avons les comas d'origine septique, aussi d'origine bactérienne. Ce qu'on appelle la méningite, il y a encore beaucoup de cas de méningite. Il y a les infections abdominales, voilà, qui arrivent avec des péritonites vraiment phénoménales, et ça fait des causes qui sont plus fréquentes chez nous. Il y a aussi l'éclampsie chez la femme enceinte qui donne des comas, et là c'est la course contre la montre pour tenter de sauver deux vies, et le bébé et la maman.
Est-ce que vous avez le sentiment, professeur, qu'aujourd'hui, dans ce type de situation extrême, on a bien compris, situation d'urgence, eh bien, la prise en charge est plutôt satisfaisante dans le contexte béninois, où vous diriez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire?
Non, là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la prise en charge s'est améliorée au fur et à mesure que nous avons pu former des médecins spécialistes à l'urgence et à la réanimation. C'était le gros problème. Actuellement, le problème n'est pas complètement réglé. Si vous prenez un pays comme le Bénin, nous avons toute la région nord-ouest de notre pays où il n'y a aucun médecin réanimateur sur deux départements. Vous voyez très bien qu'on ne peut pas dire réanimation. En termes de réanimation, de services de réanimation pour tout le Bénin, il n'y en a que quatre qui répondent aux normes. Celui du CHU de Cotonou, celui de l'hôpital d'intuition des armées de Cotonou, celui du CHU de Parakou au nord, et on peut peut-être ajouter celui de le deuxième hôpital d'intuition des armées qui est au nord aussi à Parakou.
Ça veut dire que ce ne sont que quelques dizaines de lits de réanimation pour tout le Bénin.
Non, un peu plus. Le centre de réanimation du CHU de Cotonou comporte 24 lits.
Oui, mais au niveau national, ça veut dire qu'on est à moins de 100 lits.
On est à moins de 100 lits.
On est à moins de 100 lits.
Même à moins de 50 lits.
À moins de 50 lits. Donc, c'est bien ce que je disais, plusieurs dizaines. Niveau de formation à améliorer, aussi bien sûr, la question du plateau technique.
Oui, la question du plateau technique reste préoccupante. Les respirateurs, vous avez entendu le collègue de la Pitié-Salpêtrière, la ventilation est un élément très important dans la prise en charge d'un coma grave. Bon, les respirateurs, il y en a à Cotonou, il y en a dans les autres services, mais vraiment en nombre très très limité. Donc on ne peut pas ventiler tout le monde, on est obligé parfois de faire des choix. Vous avez plusieurs comatés en même temps qui ont besoin d'être ventilés. Eh ben, vous êtes obligé de choisir certains et de ne pas ventiler les autres de la même manière.
Et du côté de la perception, c'est aussi important. Comment est-ce que le coma est associé au sein de la population? Est-ce qu'il y a des croyances particulières qui circulent, professeur Chobly?
Oui, vous savez, il y a toujours des problèmes traditionnels. On évoque beaucoup la sorcellerie, mais il y a eu beaucoup de progrès. Les populations comprennent de plus en plus que quand on est malade, quand on est gravement malade, c'est à l'hôpital qu'il faut se faire soigner. Bon, évidemment, le vrai problème cela pose, c'est que nous recevons les comas très tard, un peu tard. C'est-à-dire les patients, ils ont déjà fait le tour des traduits praticiens, ils ont été déjà dans des centres périphériques. Et c'est parce que ça ne s'améliore pas qu'on arrive chez nous et ça ne fait que compliquer la prise en charge des patients comatés.
Un dernier mot de conclusion, si vous le voulez bien, professeur Martin Chobly, un message à faire passer à la population, peut-être?
Oui, à faire passer à la population, c'est rappeler que le coma est la préoccupation majeure parmi les maladies que nous traitons, nous qui sommes dans les services des urgences, dans les services de réanimation, le coma est le syndrome le plus complexe. Et comme l'a dit mon collègue de la Pitié-Salpêtrière, c'est le pronostic du coma est imprévisible. Au départ, vous pouvez avoir un patient comaté très profond qui va s'améliorer assez rapidement. Vous pouvez avoir un comaté très léger, juste agité, qui va s'enfoncer progressivement. D'où la nécessité de gestes rapides, précis, adaptés, et ça passe par la formation. Formation au niveau médical de base, au niveau des écoles d'infirmiers, à prendre en charge en fait les détresses vitales. Les patients comatés en Afrique meurent beaucoup plus de l'absence de soins, de protection de ces fonctions vitales que de la cause même du coma. Et donc, il est important que nous insistions sur cette formation. Et puis, deuxièmement, le message important, c'est que quand on est malade, malade grave, comme dans le coma, il faut aller à l'hôpital le plus rapidement. Et par rapport aux autorités politiques, dire que le malade comateux qui est chez lui, s'il doit se débrouiller pour aller à l'hôpital, ça fait plus complexe que si on peut lui envoyer une ambulance. Pour la médecine préhospitalière.
Ça veut dire aussi qu'il faut investir dans la santé publique. C'est toujours un message qu'on fait passer au quotidien, investir dans la santé publique pour éviter justement d'arriver au-delà de l'urgence. On vous remercie infiniment, professeur Martin Chobly. Je rappelle que vous êtes également président de la Commission technique nationale chargée des réformes de santé. Docteur Martin Dresse, on se retrouve pour la dernière partie de cet échange. On a perçu l'importance de l'accès aux soins. Alors on sait, en France, on a traversé une période assez complexe avec des services surchargés, en tension complète, mais on relativise quand on entend le professeur Chobly parler, parce que là, on manque de personnel formé, on manque d'infrastructures de santé, 50 lits de réa pour tout un pays qui compte des millions d'habitants. Pour autant, vous en êtes où, vous, aujourd'hui, à la Pitié-Salpêtrière, région parisienne? La Pitié, c'est le plus grand hôpital parisien, tout simplement. Est-ce que vous êtes, vous aussi, à nouveau en situation de tension dans votre service de réanimation?
Ben, vraiment, très honnêtement, je vais être très humble et très modeste quand j'entends mon collègue au Bénin, parce que j'ai presque un peu honte. Nous, on a peut-être deux fois plus de respirateurs à la Pitié-Salpêtrière.
Pour un seul hôpital.
Pour un seul hôpital qu'au Bénin. Donc, voilà, je marche sur des œufs. parce qu'on fait le même travail, même si on n'est pas au même endroit. Et donc, je pense que sa préoccupation de pas pouvoir porter secours à toutes les personnes qui le sollicitent, ça doit être très traumatisant. Donc, si on se remet dans le contexte de Paris et de notre grand hôpital, avec beaucoup de ressources logistiques, mais également humaines, oui, on va dire qu'on est en tension, mais ça paraît un peu dérisoire hein, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Bon, le fait est qu'actuellement, on reprend une activité de prise en charge des patients qui sont porteurs du Covid qui est assez importante. Mm-mm. On n'est pas loin d'être à 50% des capacités de réanimation en ce qui concerne notre service, la réanimation EOL, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Ça veut dire qu'on est déjà en train de préparer ce qui va se passer dans les prochaines semaines, éventuellement, comme c'est d'ores et déjà le cas dans certaines régions françaises extrêmement en tension. Hein, on le voit à l'outre-mer, en Guadeloupe ou en ce moment dans la zone de Marseille, on déplace, on reporte les opérations non essentielles. On en est là ou pas encore chez vous ?
Alors, tout ça a été anticipé et on a un calendrier, une montée en charge qui, en fait, est adaptative en fonction du profil de l'épidémie. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut monter un peu crescendo, parfois redescendre un peu. Et on est en train de s'adapter quotidiennement. Et je crois que le message vraiment important, c'est de dire que finalement, c'est pas tant le Covid le problème, c'est aussi les autres patients qui n'ont pas le Covid.
Oui, on continue d'être malade d'autres choses.
Oui, et le problème, c'est que si on est amené à prendre en charge des patients dans les services de réanimation, que ça soit Covid ou autre chose, bah forcément, c'est l'occupation de lits et des ressources humaines et logistiques qui fait qu'on ne pourra pas accueillir d'autres malades. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être amené à vouloir déprogrammer et aller chercher les ressources hors les murs, comme on dit, c'est-à-dire hors des services de réanimation. Donc, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de déprogrammation qui est prévue, là, maintenant, mais par contre, on est en capacité de le faire dans les jours ou les semaines qui arrivent en fonction du profil de l'épidémie.
Quelques secondes pour parler des effectifs. Aujourd'hui, on sait que pour prendre un patient en charge, un patient comateux, un patient en réa, il faut un nombre incompressible de mains, de savoir-faire. Vous avez là aussi les moyens de faire face en termes d'effectifs ?
C'est vrai qu'on a souvent entendu, on a armé des lits. Mmh. Et derrière ça, les gens pensaient qu'on avait mis un lit, un ventilateur et un moniteur pour surveiller la pression artérielle.
Non, mais là, on a bien compris qu'il y avait toute une équipe.
Il y a toute une équipe. Et donc, non, on n'aura pas de ressources supplémentaires. Tant qu'il n'y a pas de déprogrammation, il n'y aura pas de ressources supplémentaires. Donc, il va falloir s'adapter. Surtout que maintenant, la différence du mois de mars et avril, c'est que finalement, tout le territoire est touché. Et donc, les ressources qu'on a pu voir...
On ne pourra pas déplacer forcément.
Oui, elles ne seront pas déplacées cette fois-ci. Donc, il va falloir se débrouiller par nous-mêmes.
Merci beaucoup hein, pour toutes ces explications. Docteur Martin Dresse, pour votre éclairage, d'avoir fait aussi le déplacement jusqu'à nos studios. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur au sein du service de pneumologie, médecine intensive réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Juliette Brault, Didier Bleu et Laurence Snow avec nous aujourd'hui. Demain dans Priorité Santé, nous allons parler de l'hypertension, de la santé cardiaque, prévention, prise en charge et recherche. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.